a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est maintenant l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
Les propos qui comptent, les petites phrases qui font mouche, les polémiques qui ne manquent jamais. Et c'est maintenant à décrypter avec vous. Bonsoir Bruno Jambard.
Bonsoir.
Vice-président de l'Institut de sondage OpinionWay. Cela fait 3 semaines qu'a eu lieu le second tour de l'élection présidentielle. Il y a donc un nouveau chef de l'État et le Premier ministre n'a toujours pas été changé. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Bon, bah, apparemment, ce ne sera pas ce dimanche. Déjà, il fallait attendre qu'Emmanuel Macron revienne des Émirats Arabes Unis, car la République ne peut souffrir que les deux responsables de son exécutif soient tous deux absents du territoire national. Le président est maintenant rentré d'Abu Dhabi, donc. Une fois de plus, finalement, Emmanuel Macron prend son temps. C'est conforme à sa volonté d'être le maître des horloges, Bruno Jambard.
Oui, et c'est aussi probablement la résultante du calendrier un peu inhabituel qu'on a entre les deux élections cette année, avec 8 semaines au lieu de 6, puisqu'on a eu une élection présidentielle un peu avancée, avec un second tour le 24 avril. Et donc, je crois que c'est aussi la volonté d'essayer de bénéficier du changement de gouvernement le plus tard possible pour que l'effet soit encore assez fort le 12 juin au moment du premier tour des élections législatives.
En tout cas, ce délai, cette attente ne choque absolument pas François Bayrou qui était sur RTL au grand jury.
Je pense qu'on aurait pu imaginer que le gouvernement de Jean Castex aille jusqu'aux élections législatives. Mais il ne l'a pas voulu, le président ne l'a pas souhaité. Mais vous voyez, cet intermandat, cette période d'intermandat, elle va être évidemment marquée par le résultat des élections législatives et il n'est donc pas stupide qu'on prenne un peu de temps pour réfléchir à tout ça.
Bruno Jambard, c'est inédit que tarde ainsi la démission du Premier ministre sortant et la nomination d'un nouveau gouvernement.
Oui, la tradition, alors évidemment on est dans un cas un peu particulier qui est de reconduction du président qui était déjà le président avant la présidentielle, mais généralement la tradition c'est plutôt que le gouvernement présente sa démission au lendemain du scrutin, même s'il est rechoisi d'ailleurs, et renommé pour former un nouveau gouvernement. Donc c'est un peu inhabituel, mais là encore il y a je pense deux éléments à prendre en compte. Cette idée de coller au plus près de cette élection un peu plus tardive et de bénéficier d'un effet de souffle le 12 juin avec cette nouvelle nomination. Et puis peut-être aussi la difficulté à trouver un Premier ministre compte tenu des critères que le président de la République s'est mis lui-même.
Justement, qui pour remplacer Jean Castex? Eh bien, il est beaucoup question de la nomination d'une femme à la tête de ce futur gouvernement, même si pour Nadine Morano du parti LR, les Républicains, ce n'est pas le plus important.
Dans la classe politique, il reste encore beaucoup de machisme sur lequel il faut lutter. Avoir une femme à Matignon, pourquoi pas? Mais c'est surtout pourquoi faire? Quelle sera sa feuille de route? Quelles seront ses actions? Quelle sera la politique à mener?
Nadine Morano qui parle de machisme. On se souvient effectivement que Edith Cresson, qui a été la seule à avoir occupé le poste de Premier ministre, avait fait l'objet de ce machisme. D'ailleurs, dans le Journal du Dimanche, ce matin, elle fustige, je la cite, le machisme de la classe politique, elle aussi, et elle souhaite bien du courage à la nouvelle Première ministre, si c'est une femme. Donc ce machisme en politique, ça ne change pas trop, alors qu'il y a une parité malgré tout.
Ça a quand même beaucoup progressé depuis l'époque d'Edith Cresson. Il y a beaucoup plus de femmes ministres. On est dans des gouvernements depuis quasiment maintenant 3 quinquennats, en tout cas 2, mais ça avait déjà commencé sous Nicolas Sarkozy, d'assez forte parité des ministères. Ça a été le cas pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. On a beaucoup plus de femmes députées, à l'occasion notamment du renouvellement très fort qui a eu lieu en 2017 et du fait que La République En Marche avait présenté autant d'hommes que de femmes. Donc il y a des changements. Maintenant, c'est vrai qu'on est encore dans une situation où les femmes ont du mal à faire leur place en politique. On le voit à travers ce poste de Premier ministre. Ce n'est pas nouveau qu'Emmanuel Macron évoque l'idée d'avoir éventuellement une femme, mais il n'en a pas eu dans son premier mandat. Et puis, surtout, quand bien même il y aurait une femme Premier ministre, on attend surtout à un moment qu'une femme soit élue présidente de la République, puisque en France, l'essentiel des pouvoirs se situe quand même plus à l'Élysée qu'à Matignon.
Vous parliez de la parité. Est-ce que c'est un usage ou est-ce que c'est un point de droit?
Alors, c'est un usage pour le gouvernement, c'est un point de droit en partie pour les scrutins. puisque si vous ne respectez pas la parité dans les scrutins, notamment législatifs, vous êtes soumis à des sanctions financières pour les partis politiques qui ne présentent pas autant de femmes que d'hommes. Donc on est entre les deux, et dans certaines élections, c'est une obligation, hein, c'est le cas pour aujourd'hui les élections municipales sur les listes, les élections régionales, ou encore pour, en tout cas, les binômes lors des élections départementales.
Alors, quelle pourrait être cette femme, si c'est bien une femme qui succédera à Jean Castex, dans le griot gagnant, il y aurait, hein, le conditionnel n'est jamais de trop dans ces circonstances. Il y aurait Catherine Vautrin, qui est LR et qui a rejoint la Macronie il y a 2 mois, une élue locale qui a été ministre auparavant. Marisol Touraine, qui avait été ministre sous la présidence socialiste de François Hollande, un atout de gauche donc. Et Elisabeth Borne, qui vient également de la gauche, avant d'être ministre dans le dernier quinquennat. Autant que vous puissiez le savoir, ça se joue entre ces trois femmes-là.
C'est très difficile de savoir. Ce sont les noms qu'on cite beaucoup. Elisabeth Borne, ça fait longtemps qu'on cite son nom. Ça a été longtemps la favorite, hein, même d'un certain point de vue. Catherine Vautrin, c'est un nom plus récent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux profils quand même qui politiquement seraient marqués. Aussi, Catherine Vautrin, clairement, ce serait de nouveau une première ministre issue de la droite pour Emmanuel Macron. Marisol Touraine, clairement une première ministre issue de la gauche, puisqu'elle a un passé, elle a été ministre sous François Hollande. Pour Elisabeth Borne, bien sûr, elle serait vue comme une macroniste parce qu'elle a été inconnue avant d'être ministre pour Emmanuel Macron. Et je ne crois pas que le fait qu'elle vienne de la gauche soit quelque chose qui marque l'opinion publique.
Oui, elle était de gauche, on va dire d'un point de vue technique, puisqu'elle était directrice de cabinet ou conseillère spéciale d'un certain nombre de personnalités. On parle de la France, mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, Margaret Thatcher a exercé le pouvoir pendant 11 ans. En Allemagne, Angela Merkel a été chancelière pendant 16 ans. La France est donc en retard.
Oui, oui, très clairement. Et surtout, dans ces pays, le poste de chancelière ou de première ministre, c'est le poste décisif. C'est le poste qui vous fait diriger réellement
le
pays.
Oui, ce serait l'équivalent de président de la République.
Voilà, ce serait l'équivalent de président de la République par rapport à chez nous. Même si dans ces deux pays, il y a un chef de l'État qui n'est pas ce poste-là. Mais les pouvoirs sont pour cette personnalité-là. Évidemment, chez nous, ça restera un poste soumis en plus à la décision à tout moment et au choix à tout moment d'un certain point de vue du président de la République de la remplacer. Donc, ce ne serait pas de même nature, mais ce serait malgré tout un premier pas et un pas important, surtout si l'expérience se passait mieux qu'elle ne s'était passée pour Édith Cresson, hein, qui a une des durées de vie comme Premier ministre,
11 mois, hein, je crois,
les plus faibles de la Ve République.
Bah écoutez, on verra bien. Ce devrait être donc demain, hein, vraisemblablement. En tout cas, vous écoutez Dimanche Politique en ce moment même. Il n'y a donc plus qu'un mois avant le premier tour des élections législatives, un scrutin que la gauche va aborder uni, derrière Jean-Luc Mélenchon et sa nouvelle Union populaire écologique et sociale. Aujourd'hui, qu'il arrive au pouvoir comme Premier ministre, hein, c'est ce qu'il souhaite, le SMIC passerait finalement à 1500 euros net pour tenir compte de l'inflation, alors que durant la campagne, il parlait de 1400. En effet, depuis le début du mois, grâce à une revalorisation automatique, le salaire minimum est à 1303 euros en net. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
Nous avions prévu d'augmenter de 15% au niveau du SMIC. Puisque le SMIC est à 1300, nous passerons donc à 1500. Je vous annonce donc aujourd'hui que la progression de 15% sera observée par rapport au niveau du prix. Il y aura une conférence salariale obligatoire par branche dès que je serai élu Premier ministre.
Jean-Luc Mélenchon, qui est également revenu sur l'affaire Tahabouaf, ce militant qui a finalement retiré sa candidature dans la circonscription de Vénissieux, après avoir été prévenu de l'ouverture d'une enquête interne pour des accusations de violences sexuelles.
Je tiens à souligner le caractère odieux et distinct de la campagne raciste contre Tahabouaf. Et ça restera, parce que c'est à ce moment-là que Fabien Roussel est intervenu. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je reste sous le choc d'avoir vu intervenir en pleine campagne raciste un dirigeant politique de notre famille pour attaquer quelqu'un. Alors après, il est apparu les faits que vous avez cités. Nous avons une structure à l'intérieur de la France insoumise qui se saisit de ces questions.
Jean-Luc Mélenchon sur France 3 à la mi-journée, beaucoup plus tranché sur cette affaire Bouaf, l'eurodéputé LR qu'est Nadine Morano.
Monsieur Tabouaf avait quand même traité Dalil Boubaker de collabeur à l'époque où les musulmans et Dalil Boubaker avaient manifesté contre les attentats terroristes en France. Comment les socialistes peuvent accepter une telle vision communautariste ?
Bruno Jean-Bart, vice-président de l'Institut de sondage Opinionway. On vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon très sévère à l'endroit du chef du parti communiste, M. Roussel. On le sent dans le ton, alors que ces deux-là se sont alliés il y a une dizaine de jours.
Oui, ça montre que cette union à gauche, ça n'est pas un grand fleuve tranquille, elle n'est pas sans difficulté. Hein. On verra vendredi prochain, on aura le dépôt de l'ensemble des candidatures qui sera terminé pour ces élections législatives. On fera le compte du nombre de dissidents ou de candidats divers gauche ou divers écologistes qui s'opposeront à cette union et qui se présenteront en dehors. Voilà, on voit qu'il y a des difficultés, il y a des divergences qui restent. Elle s'est faite par nécessité pour essayer d'être le plus efficace possible dans ce mode de scrutin pour ces élections législatives, mais elle ne règle pas tous les différends qui existent entre les différentes formations au sein de la gauche, que ce soit Europe Écologie Les Verts, les communistes, les socialistes et la France Insoumise.
Autre analyse concernant Jean-Luc Mélenchon, celle de Valérie Gasse, chef du service politique de RFI. Alors, en cas de victoire à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon espère entrer à Matignon. Cela fait rêver ses supporters, mais cela irrite ses adversaires.
Mélenchon, Premier ministre, c'est ridicule, dixit un ministre du gouvernement de Jean Castex qui continue en s'amusant des intentions cachées du leader des Insoumis vis-à-vis de ses nouveaux partenaires écologistes et socialistes. Mélenchon veut les tuer depuis le début. Même constat chez un rallié socialiste à Emmanuel Macron. Le choix de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qui s'est déjà passé dans d'autres pays, en Allemagne avec Die Linke, en Grèce avec Syriza, en Espagne avec Podemos. La radicalité de gauche ne dure jamais longtemps. Avant de continuer en décrivant Jean-Luc Mélenchon avec ses qualités et ses défauts, Jean-Luc, c'est une bête politique en termes de candidature, mais derrière, c'est un autocrate caractériel. Le voilà rhabillé pour les législatives.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il fait peur à la majorité ?
Eh bien, en tout cas, il concentre les attaques. L'union des partis de gauche était inespérée et elle a permis à Jean-Luc Mélenchon de capter l'attention des Français. Certains reconnaissent que c'est un coup de génie d'avoir joué la carte du troisième tour de la présidentielle et présenté la victoire aux législatives comme un marchepied vers Matignon. Son sens politique est unanimement reconnu, y compris chez ses adversaires. Ce qui n'empêche pas un député issu de la droite de critiquer cette tactique en estimant que c'est un inversement complet de la logique républicaine. Cela travestit la réalité. La cohabitation, c'est l'exception, pas la règle. Les Français ne voudront pas faire n'importe quoi. Peut-être, mais en attendant, Emmanuel Macron s'est senti obligé de contre-attaquer en déclarant devant les candidats de la majorité que le troisième tour, ça n'existe pas, et en taclant ceux qui veulent rejouer aux législatives, ce qui a été tranché à la présidentielle.
Et puis Valérie Gasse, l'offensive Mélenchon n'est pas non plus du goût de Marine Le Pen.
Bizarrement, Marine Le Pen est sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. Selon elle, la logique des institutions veut que le président de la République ait une majorité. Tous ceux qui racontent autre chose racontent des fables. Pas question de se laisser contester la place de première opposante par un Jean-Luc Mélenchon qu'elle a qualifié de fou du roi, histoire de sous-entendre qu'en fait, il rendait service au président de la République. Aux législatives, c'est Macron et Le Pen contre Mélenchon.
Bruno Jean-Bart, Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas à ces élections législatives. Est-ce qu'il faut forcément qu'un leader doit être élu pour être, on va dire, légitime ?
En France, sous la Ve République, ça n'est pas nécessaire d'être député pour être Premier ministre. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, où si vous n'êtes pas député, vous ne pouvez pas être Premier ministre. Et je rappelle que Édouard Philippe, après sa nomination en 2017, ne s'était pas présenté aux élections législatives. Ça n'est pas, je dirais, en soi, quelque chose d'inhabituel ou d'anormal sous la cinquième, c'est toujours un peu surprenant, mais c'est ainsi qu'est fait notre système, et toujours pour la même raison, c'est que le vrai pouvoir, il est à l'Élysée avant tout.
Et vous avez réalisé, avec votre institut de sondage Opinionway, une enquête sur le vote de la gauche cette semaine. Il en sort quoi ?
Ce que l'on voit, c'est que dans l'enquête que l'on a réalisée, l'union de la gauche pourrait recueillir aujourd'hui autour de 23% et atteindre 150 députés, ce qui est beaucoup plus qu'elle n'en a dans l'Assemblée de 2017, hein, à peu près un peu plus de 65 députés à l'époque, sur toutes les tendances confondues. Donc on voit bien comment cette union de la gauche, elle permet d'éviter la grande catastrophe qui a eu lieu en 2017 pour la gauche aux législatives, parce qu'elle permet de qualifier beaucoup plus de candidats dans les circonscriptions. Mais en même temps, elle laisse encore assez loin la perspective pour le moment d'une victoire dans ces législatives, pour une raison assez simple, c'est que la difficulté, c'est qu'une fois que le candidat arrive au second tour, il n'a plus de réserve de voix, il n'a aucune force politique qui peut éventuellement voter pour lui facilement, comme ça peut être le cas pour, d'un certain point de vue, La République En Marche, qui face à la droite peut s'appuyer sur du vote de gauche et face à la gauche sort du vote de droite.
Donc 150 députés à gauche pour 577 places à l'Assemblée nationale, autant dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas prêt de devenir Premier ministre.
Pour le moment, non. Ouais. Maintenant, il reste une campagne et on verra quelle va être la dynamique. Il a en tout cas réussi à faire quelque chose qui était absolument indispensable pour pouvoir espérer l'être, c'était cette union.
Philippe Le Caplain. Tenue décente exigée, la polémique sur le burkini enflamme Grenoble, le nouveau règlement avec la révision du code vestimentaire dans les piscines fait des remous, alors que la municipalité menée par l'écologiste Éric Piolle veut autoriser donc le burkini, et le monokini d'ailleurs. Cela suscite la fureur de l'opposition, le maire Europe Écologie Les Verts l'avait promis de longue date, le sujet serait remis sur la table après l'élection présidentielle. Éric Piolle donc s'en explique sur Europe 1.
C'est un non-sujet en fait, c'est le règlement des piscines, ce règlement il a donné des interdits vestimentaires il y a 10 ans, hein, c'est pas vieux, et en fait il faut lever ces interdits, juste pour l'accessibilité universelle du service public, et donc c'est aussi vrai pour que des femmes puissent se baigner seins nus. Aujourd'hui, le sein des femmes ont un autre statut que le sein des hommes, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai pour des raisons de conviction philosophique, politique ou religieuse, puisque à la piscine, vous êtes comme dans la rue, ouais. Vous vous habillez comme vous êtes, et en fait, vous pouvez exprimer ce que vous êtes.
Mais
c'est la laïcité qui permet
le maire.
Ça. Et c'est l'universalisme auquel je suis très attaché, l'accessibilité à tous des services publics.
Quant à la France insoumise, voici son expression sur ce dossier, pas forcément très claire. Adrien Quatennens, coordinateur de LFI, était sur CNews ce matin.
Je ne suis pas certain que ce soit un progrès social. Je ne suis pas certain qu'il nous appartienne à nous autres, les politiques, de décider d'éléments qui, à mon avis, sont de l'ordre du règlement intérieur des piscines municipales. Peut-être qu'en effet, c'est un symbole communautaire. La question de quels vêtements nous portons à la piscine comme usagers d'un service public n'est pas une question de laïcité. Si vous êtes, vous, agent municipal qui s'occupe d'ouvrir et de fermer la piscine municipale. Vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes donc soumis à la neutralité qu'on exige des fonctionnaires. C'est normal, c'est la laïcité. En revanche, les vêtements que portent les usagers d'un service public ou les vêtements que les gens portent dans la rue, cela n'a rien à voir, rien avec la laïcité.
Bruno Jambard, c'est une vieille affaire. Hein. Sous François Hollande, à l'époque, il ne s'agissait pas d'une autorisation du burkini, mais d'une interdiction.
Oui, non, c'était un vieux sujet. C'est assez surprenant que le maire de Grenoble le remette sur la table à quelques semaines des élections législatives. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas d'unité sur ce sujet-là à gauche. Même la France insoumise semble plutôt considérer que ça n'était pas vraiment nécessaire, finalement, si on écoute bien Adrien Quatennens. C'est un sujet extrêmement sensible à gauche parce qu'il y a une bataille et il y a une division au sein de la gauche, aussi bien au sein des électeurs que des partis de gauche, sur cette question du rapport à ces, j'irais, ces objets visibles de l'islam. Jusqu'où doit-on les accepter? Jusqu'où doit s'appliquer la laïcité? Quelle doit être sa dureté? On avait en France finalement réussi à faire une forme de consensus sur l'école, en excluant le port du voile à l'école, mais on voit bien que sur d'autres sujets il n'y a pas d'unité, notamment à gauche.
Et le burkini à la piscine fait flop, si je puis dire, puisque pour l'instant l'extrême droite ne s'est pas saisie du sujet, il n'y a pas de commentaire.
Oui, effectivement, ça n'a pas encore fait l'objet d'une polémique, mais c'est vrai que je pense que la gauche, à mon avis, et certains leaders de la gauche qui font campagne pour les législatives se seraient passés de ce sujet et de l'arrivée de ce sujet à quelques semaines du premier tour.
Merci pour vos analyses et commentaires, Bruno Jambard, vice-président de l'Institut de sondage OpinionWay. Merci d'être venu dans le studio de Dimanche Politique sur Radio France Internationale.